Alors, bonjour à tous. Ah oui, ça y est, c'est parti, c'est enregistré. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, cette vidéo est une vidéo qui est faite pour compenser l'enregistrement d'une conférence qui a eu lieu mercredi 6 décembre 2023, qui est faite dans le cadre des visioconférences du CISH, qui s'appelle Collège international de dénomination en 2024, et qui est une association qui est adossée aux éditions L'Harmattan, mais qui est bien indépendante, et qui réunit des gens qui ont envie des gens de sensibilités différentes, d'origine internationale, au carrefour des cultures et des générations, comme nous disons comme slogan de notre association, et qui réfléchissent à toute problématique qui soucie et qui pose problème et qui perturbe le monde actuel. Voilà. C'est vraiment un espace de pensée, de réflexion, d'échange, de débat, et qui essaye d'aboutir à des publications pour laisser trace. Essayer que le monde en tienne compte. Voilà. Et donc, nous organisons régulièrement des visioconférences. La dernière avait lieu en juin 2023 sur la gouvernance des communs. Et aujourd'hui, le thème de notre conférence, c'est Voyage en cécité, propos pratiques et philosophiques sur vivre sans voir. Voilà. Donc moi, je suis Hervé Cochet, président du collège, et je ne vois pas, je vais en parler un petit peu. Et puis, je suis docteur en sciences de l'éducation et surtout actuellement animateur de Café Philo. Voilà. Et on réenregistre cette conférence puisque l'enregistrement n'avait pas marché. Voilà. Alors, tout d'abord, vous dire que faire cette conférence n'était pas facile, puisque c'est quand même quelque part un récit de vie, un travail à travers ce récit de vie, une réflexion. Alors, il ne s'agit pas du tout de raconter ce qui m'est arrivé, ni les émotions, ni les obstacles, mais plutôt basculer entre des points extrêmement pratiques, descriptifs, phénoménologiques de la cécité d'un côté, et des pistes de réflexion philosophique que ça ouvre. Voilà. L'autre objectif de cette conférence, c'est de la préparation d'un bouquin, voilà, qui est en route depuis plusieurs mois, plusieurs années, et on va finir par y arriver. Voilà. En tout cas, de vous parler m'aide à mettre en forme les idées. Voilà. Alors, il y aura une introduction. Cinq parties, cinq propositions et une conclusion. Voilà. Et de façon, on va dire, un tout petit peu artificielle, je placerai en cours de route ce qui avait constitué des réponses à des questions, mais là, il n'y a pas les questionneurs puisque on n'est pas en direct. Voilà. Mais j'essaye de regrouper un peu tout ce qui s'est dit. Alors, l'introduction, je vais souligner trois points. En introduction, je voudrais d'abord vous dire que faire des généralités sur la cécité, il y a un écueil majeur, c'est que chaque cécité est une histoire singulière, de même que chaque vécu humain est une vie singulière. Donc, il y aura toujours une simplification en généralisant. Voilà. Chaque cécité est un parcours très particulier, très singulier, et je n'en rendrai absolument pas compte à travers de ce que je vais soulever dans cette conférence. Je vais juste, pour ce vécu singulier, vous signaler, parce que c'est très important pour comprendre mon propos, que personnellement, j'ai vu à peu près complètement pendant 20 ans J'ai perdu la vue sur une période qui s'étale environ sur 10 ans, ce qui amène jusqu'à la trentaine à peu près. Et donc, depuis le reste, c'est-à-dire un peu plus du double, puisque j'ai 65 ans aujourd'hui, à l'heure où je parle, eh bien, je n'ai plus vu. Donc voilà, mon vécu singulier, le seul point que j'en dirais, c'est ça, c'est d'avoir appartenu aux trois catégories. La catégorie voir correctement, la catégorie voir mal, de façon évolutive, avec quelque chose qui se perd au fur et à mesure, et la catégorie ne pas voir. Voilà. Ça m'amène au deuxième point de l'introduction, qui est de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire voir? Au fond, comment peut-on définir de façon extrêmement pratique, non scientifique, non administrative, voir? Ben, voir, c'est la faculté d'avoir de l'information sur quelque chose qui est à distance et qui est silencieux. Voilà. La vue consiste à capter des images et ces images, finalement, ne présentent au fond qu'une seule caractéristique fondamentale, c'est la couleur. On croit toujours que l'on perçoit des objets, des contours, des contrastes, des reliefs, des profondeurs. Tout ça, c'est second. Ce qui est premier, c'est le fait que la couleur fait distinguer les choses les unes des autres, en particulier la forme du fond, ce qui détermine les objets les uns des autres, les places, les situe dans le décor. Et le fait que la vue soit binoculaire met en place le relief, mais finalement, le signifiant fondamental, c'est de choper de la couleur, c'est d'attraper de la couleur. Or, la couleur est un construit par le cerveau, puisqu'au départ, c'est des longueurs d'onde, voilà, si on rentre sur le côté scientifique. Donc voilà, et finalement, la caractéristique de voir, c'est que cette chose, ces choses que l'on détermine, que l'on distingue, elles sont à distance et on peut les distinguer alors qu'elles ne se manifestent d'aucune autre façon. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de toucher et il n'y a pas de saveur. Voilà. Voilà ce qui est strictement du voir. Et donc, c'est cette faculté qui va disparaître dans ne pas voir. Voilà. Définition de la cécité, troisième point de l'introduction. Ben, il y a tout un tas de définitions de la cécité, en particulier des définitions administratives, qui mélangent ne pas voir et voir encore un peu. Hein, puisque, à un moment donné, en France, on a considéré que la cécité, c'était en dessous de 1 vingtième de vision, voilà, et plus ou moins en dessous, là c'est plus compliqué, 10 degrés d'arc de champ visuel. Voilà. Donc, un individu qui, à la mesure, ne présente qu'un vingtième ou en dessous, et plus ou moins, c'est-à-dire que ça s'additionne ou pas, un arc de vision inférieur à 10 degrés d'angle est considéré comme non-voyant. Ce qui, évidemment, phénoménologiquement, n'est pas vrai du tout, puisqu'il voit. C'est ce qu'il voit qui n'est pas du tout de la même nature que ceux qui ont une vue entre guillemets normale, mais ils voient. Et c'est complètement autre chose. Voilà. Donc, la cécité dont je vais vous entretenir, c'est la cécité vraie, c'est-à-dire il n'y a strictement plus aucune manifestation visuelle, ce qui est très difficile à déterminer. On va voir tout de suite après pourquoi. Voilà. Donc, on va se mettre dans le ne pas voir, c'est-à-dire je ne peux pas percevoir des informations à distance et silencieuses, c'est-à-dire qui se manifestent par aucune autre façon. Voilà. Il faut qu'on prenne ça comme définition de base pour se débrouiller. Ça, c'était le cadre dans lequel je veux m'exprimer. Chaque vie de ces cités est un parcours très singulier. Deuxièmement, la vue, j'en ai donné une définition claire et précise, mais phénoménologique, d'accord? C'est vraiment le phénomène qui touche la personne que j'essaye de définir. Et puis, bah, c'est l'absence de ce phénomène que je vais appeler cécité, la cécité vraie au sens de ne pas voir. Voilà. Et donc, j'arrive à mes cinq propos pratiques et philosophiques que je vais chaque fois symboliser par une phrase clé autour duquel je vais faire des commentaires. Alors, le premier propos parle de la notion de noir. Voilà. Que je vais appeler une couleur, même si c'en est pas une dans beaucoup de définitions, on va quand même prendre que c'est une couleur par le fait que c'est l'absence de couleur, que c'est l'absence de renvoi de la lumière, finalement, et que donc le noir, c'est lorsqu'il n'y a pas de longueur d'onde à convertir au niveau du cerveau en couleur. Voilà. La proposition que je vous propose de réfléchir, c'est être dans le noir n'existe pas. Voilà. Être dans le noir, pour la cécité, ça n'existe pas. Voilà. Alors, je prends d'abord ce thème pour dire quelque chose. Je vais dire de la vie commune, de la vie quotidienne. Lorsque je suis amené à dire je ne vois pas, je dirais qu'il y a une chance sur deux pour que la personne à qui je parle, qui qu'elle soit, hein, qu'elle soit dans n'importe quel type de culture, de discipline, ce que vous voulez, eh ben, elle va me répondre, ah ben moi aussi, je vois mal. Voilà. Donc, il y a déjà ce premier brouillage. Dès qu'on parle de ne pas voir, les gens confondent avec mal voir. D'où les précautions de définition que j'ai prises tout à l'heure dans l'introduction. Donc déjà, on perçoit dans le vécu humain je ne sais pas comment le définir au niveau des mots, mais une importance du phénomène visuel. Et le ne pas voir renvoie déjà vers le mal voir, comme si le mal voir avait comme risque de tomber un jour, entre guillemets, dans le ne pas voir. Et derrière, on sent qu'est caché le noir. Voilà. Être dans le noir. Voilà. Il y a une deuxième réaction quand on parle aux gens de ne pas voir. Eh ben, c'est cette impression que ne pas voir, c'est être dans le noir, justement. C'est ah, je ne supporterai pas d'être dans le noir. Alors, faut que j'en parle. Non, ne pas voir, ce n'est pas être dans le noir, pour deux raisons. Alors la première raison, c'est si on considère un groupe qui est le groupe des personnes non-voyantes de naissance. Pour les personnes non-voyantes de naissance, c'est voir qui n'existe pas. Et donc, voir quelque chose, y compris le noir, n'a pas de sens. Ils ne sont pas dans le noir. Ils sont dans le non-voir. Ils sont dans l'absence et non le manque de cette capacité, qui est la capacité de voir. Voilà. Dans les questions qui m'ont été posées le jour de la conférence, on a beaucoup fait référence au vocabulaire. Le non-voyant de naissance, vu qu'il vit avec des personnes voyantes, va s'accaparer le vocabulaire voyant, mais va y accorder une signification qu'il a construite à partir de ce qu'il comprend, de ce que font et de ce que racontent les autres, mais c'est un signifiant construit et qui n'a pas de noyau dur expérientiel. La personne ne vit pas ce que cela veut dire voir. Elle le vit comme étant une fonction que les autres personnes possèdent et qu'elle ne possède pas. Donc ce n'est même pas un manque de quelque chose qu'elle a connu puis perdu, c'est un manque par rapport à des facultés supplémentaires qu'elle finit par comprendre comme étant ce que les autres ont et qu'elle n'a pas. Voilà. Vous, vous arrivez à, moi, je ne peux pas. Voilà. Et elle ne comprend pas bien ce qui se passe. Elle ne le comprendra jamais au sens de le vivre comme quelqu'un qui voit le vit. J'allais dire comme je le vis, puisque moi, personnellement, je fais partie de l'autre catégorie dont je parle après. Voilà. Donc, première raison pour dire être dans le noir n'existe pas, eh bien, lorsque l'on n'a jamais vu, eh bien, la notion de noir n'a tout simplement jamais été construite, jamais été perçue, et donc la personne n'est pas dans le noir. Voilà. Ça, c'est pour les non-voyants de naissance. Pour les non-voyants en cours de route, comme je les appelle, dont je fais partie, le cerveau a vu. Comme le cerveau a vu, il ne cesse jamais de fabriquer des images. Toute stimulation est une image. Il a une bibliothèque d'images, donc un souvenir, et il a un déclenchement d'images qui n'arrête jamais. Donc, être dans le noir n'existe pas non plus. Le cerveau est un producteur d'images sans cesse. D'ailleurs, dans de nombreuses études de neurosciences, Varela le signalait déjà dans les années 90 dans ses fameux bouquins, en particulier dans l'inscription corporelle de l'esprit de 1993. 80% des neurones qui arrivent au niveau du lobe occipital sont des neurones non visuels. Voilà. Donc c'est bien que la fonction construction d'image n'est pas une fonction strictement visuelle. Voilà. Donc le cerveau en activité construit des images et on n'est pas dans le noir. Voilà. Donc non, la personne qui ne voit pas n'est pas entourée de noir, n'est pas enfermée dans un cachot. Et en fait, je crois que c'est ça le propos philosophique qu'il faut en tirer et la crainte de la cécité, c'est cette impression d'enfermement dans un cachot. Et je pense que c'est le mot rien qui est substitué par l'idée de noir. Effectivement, il n'y a pas de nouvelles informations visuelles. Il n'y a pas de perception d'informations au sens de la vue. Donc il y a un rien. Il y a un rien au sens entrant. Il n'y a pas de nouvelles informations visuelles qui arrivent. Et c'est ça qui donne à la personne qui essaye de réfléchir à la cécité une impression de noir, d'enfermement, de choses comme ça. Voilà. À réfléchir de façon importante, de façon profonde. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus ou ne pas ou ne jamais recevoir un certain type d'information? Voilà. En tout cas, ce n'est pas le noir. Voilà. Voilà pour mon premier propos. Deuxième propos, j'ai pris comme mot le mot compensation. Alors, la phrase, la proposition que je vous propose de réfléchir, c'est voir se situe aussi dans les autres sens. Voilà. Alors, voir se situe aussi dans les autres sens. Les neurosciences ont largement avancé là-dessus maintenant, mais on peut revenir avant les neurosciences et le décrire sous l'aspect phénoménologique, c'est-à-dire expérientiel, ce que vous vivez, ce qui vous apparaît à vous-même ou m'apparaît à moi, par la pratique de la vie quotidienne. C'est pour ça que je vous dis que c'est des propos pratiques et philosophiques. Alors, lorsque vous entendez quelqu'un et que ce quelqu'un n'est pas dans votre champ visuel, téléphone, radio, personne dans un couloir à côté de vous, dans une pièce différente, etc., eh bien, sans que vous en ayez conscience, c'est-à-dire une image émergée devant vous, il y a déjà construction d'une image. Et le moment où vous en allez en faire l'expérience absolument concrète, c'est quand vous allez rencontrer cette personne, que son image va vous apparaître. Vous avez entendu la personne à la radio, vous la voyez à la télé ou sur un écran d'ordinateur, eh bien, immédiatement, votre réaction va être Ah, je le voyais comme ça, ou Ah, je ne le voyais pas comme ça. C'est-à-dire qu'immédiatement, l'image réelle que vous percevez par la vue et l'image que vous étiez construite par le sens auditif vont être confrontées l'une à l'autre. Et vous allez percevoir les décalages. Ah, je l'avais vraiment pas vue comme ça. Elle est vraiment différente, etc. Bon. Autrement dit, il y avait eu du visuel, même pas conscient, même pas construit, même pas un effort. C'était spontané et vous ne l'aviez même pas représenté en vous de façon claire et précise. Il était là, elle était là et pof, vous êtes en train de travailler sur cette image. Voilà. Vous touchez un objet, c'est le même phénomène qui a lieu. Voilà. Toucher un objet sans le voir suscite déjà une image. Prenez les étoffes. Prenez les tissus, prenez les surfaces. Une main qui glisse sur une surface immédiatement attribue non seulement les qualités tactiles, mais d'autres qualités. Des qualités d'épaisseur, des qualités de couleur, des qualités de grain. Voilà. Il y a du visuel. L'odeur, la saveur, voilà. On peut faire le même exposé. Autrement dit, la vue n'est pas que visuelle. Il y a du voir dans les autres sens et ça se déclenche sans arrêt. Ça veut dire qu'en fait, philosophiquement, nous avons divisé les cinq sens parce que l'anatomie nous le dicte, parce que nous avons essayé de bien distinguer nos perceptions. On le trouve Hippocrate, par exemple, le décrivait très très bien. Voilà, donc on le trouve il y a très longtemps, c'est évident. Et pourtant, le vécu intérieur est beaucoup plus mélangé, brouillé, hein, kinesthésique, hein, c'est SYN. Voilà, donc ensemble, voilà. Et ça, je trouve que c'est un point philosophique à travailler sans cesse. Sur cette richesse des recouvrements des perceptions sensorielles, le mettre comme un point de réflexion dans nos vies, dans nos rencontres avec le monde qui nous entoure. Voilà. Voilà pour ce deuxième point que, évidemment, la cécité met en avant. Souvent, les gens disent, ah, mais comme vous ne voyez pas, vous devez avoir tel ou tel sens plus aiguisé. Les mesures neuroscientifiques montrent qu'un non-voyant touche à une odorat exactement identique, mais évidemment, c'est leur utilisation qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Il y a peut-être eu, pour moi en tout cas, je ressens bien qu'il y a une extraction visuelle de tout ce que je perçois par les autres qui est exercée, qui est même devenue une espèce d'attention portée, de travail quotidien pour voir dans le non-voir. Voilà, ça c'est très important. Et je pense qu'on peut en tirer des pistes d'entraînement pour chacun, y compris bien sûr pour ceux qui voient clair. Voilà. Le troisième propos tourne autour de la peur. Voilà, le mot clé que je voudrais vous faire réfléchir, c'est la peur, avec comme proposition, la vue protège, ne pas voir expose. La vue protège, ne pas voir expose. Voilà. Alors, ce qui caractérise la vue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la distance. La vue est un télérécepteur. Alors vous allez me dire que l'oreille aussi. L'oreille est un télérécepteur puisqu'il s'agit de capter le bruit que fait un objet ou une manifestation qui n'est pas auprès de moi, mais qui est loin, qui présente un écart par rapport à mon corps. Voilà. Vous remarquerez par contre que l'odorat, c'est une molécule qui est déjà rentrée dans mon corps, puisqu'elle est au niveau des récepteurs olfactifs. La saveur, c'est encore plus flagrant, puisqu'elle est dans la bouche. Alors que, évidemment, le toucher, c'est le contact avec le corps. Voilà. Mais les deux autres sens sont à distance. Ce qui différencie la vue de l'audition, c'est sa précision. C'est le fait que l'objet qui se donne à voir va être distingué, peut être très très loin, et va pouvoir sans doute être déterminé. Alors que une manifestation sonore peut être, bon, localisée avec beaucoup moins de précision et beaucoup moins de détermination, puisque beaucoup de confusions peuvent exister au niveau sonore. Hein, voilà. On pourrait disserter là-dessus longuement. Donc la caractéristique fondamentale et première de la vue, c'est la distance et la précision de cette distance et de ce qui est perçu à distance. Ça veut dire que lorsque l'évolution phylogénétique a fait apparaître un organisme ou des cellules qui pouvaient avoir de la connaissance à distance, est apparue la capacité de savoir à quoi on s'expose. Quel est le prédateur éventuel qui est en train de s'approcher? Voilà. Et donc, c'est la notion de défense, la notion de protection qui s'installe immédiatement. Voilà. La vue, sa première fonction, c'est je sais qui s'approche et qu'est-ce qui peut m'arriver avant que ça arrive. La distance permet du temps. Et donc du temps de fuite, de protection, de mise en place d'une défense. Voilà. On peut regarder toute l'évolution de la civilisation humaine, hein, qui joue entre masquer et être vu. Voilà. La base même de la défense, c'est d'être masqué. Voilà. Le masque est aussi une symbolique énorme dans la civilisation humaine. Dans toutes les cultures, on trouve un rôle du masquage ou de se masquer, etc. Je passe vite. Ça nous amène à la peur. Donc, quand on ne voit pas, eh ben, fondamentalement, on vit dans une peur, hein, qui est la peur de ne pas voir, de ne pas être averti du prédateur qui va nous tomber dessus. Pratiquement, la réaction, on va la voir chez tout le monde. Ah, mais si vous ne voyez pas, comment vous faites pour traverser la rue? Le prédateur d'aujourd'hui, c'est la voiture qui arrive, c'est le camion, c'est voilà. Et immédiatement, la première chose perçue par quelqu'un qui voit sur la cécité, c'est comment je vais me vous allez vous protéger ou je vais me protéger de ces prédateurs, que sont les voitures. Voilà. L'absence de vue, le premier sentiment qui émerge, c'est la peur. Voilà. La vue, c'est la peur. Voilà. L'absence de vue, c'est la peur. Très important. Philosophiquement, on peut comprendre que ça veut dire qu'il y a tout un chemin à travailler lorsque l'on vit sans voir, comment vivre et comment ne pas être sans cesse envahi par la peur. Comment vivre sans peur, comment ne pas avoir peur de vivre. Et vous imaginez bien toutes les conséquences philosophiques que peut avoir cette réflexion, comment vivre sans avoir peur. Le quatrième point que je voulais soulever, c'est la notion de dépendance. C'est le mot de dépendance, et j'ai symbolisé ça par la phrase la cécité met en jeu la liberté de disposer de soi. Voilà. La cécité met en jeu la liberté de disposer de soi. Voilà. Voir, c'est connaître son environnement. C'est avoir une connaissance précise à tout moment. Première activité du voyant qui arrive quelque part, c'est de prendre connaissance de son environnement. Voilà. Et pourquoi prend-on connaissance de son environnement? C'est pour pouvoir disposer de son corps dans cet environnement. Où je vais placer mon corps? Comment je vais le placer? Qu'est-ce que mon corps risque ou ne risque pas? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet environnement? Saisir, aller vers, me placer, etc. Autrement dit, la vue organise le comportement corporel, la relation corporelle qu'il va y avoir entre mon corps et cet environnement. Voilà. Eh bien, ne pas voir, c'est ne pas pouvoir faire ça. Autrement dit, c'est pas pouvoir faire quelque chose qui est au fondement de la vie continuelle. En permanence, le voyant, la personne qui voit bien, dispose de soi en fonction de l'environnement qu'elle découvre autour d'elle. En fonction également, évidemment, de tout un tas d'autres composantes, qui sont des composantes de décision, de projet, d'envie, de désir, de besoin, etc. Mais pour aboutir à ça, il y a cette connaissance de l'environnement. Et c'est justement ce qui est amputé chez le non-voyant. Je ne peux pas faire comme je veux ce que je veux de mon corps. Pourquoi? Parce que je suis en difficulté face à la connaissance de cet environnement. Alors, un non-voyant va donc minutieusement prendre connaissance de son environnement et tenter que cet environnement soit stable. Tant qu'il vit dans un endroit qu'il connaît, où chaque objet est à sa place, où rien ne change de place, il va pouvoir disposer de soi. Mais dès que soit quelque chose change de place, soit l'environnement est nouveau, eh ben voilà une énorme incapacité qui apparaît, un handicap fantastique. Je ne peux pas disposer de moi car je ne connais pas l'environnement. Voilà. Il y aurait beaucoup de réflexions à sortir de cette chose-là. Quelque chose de très important. Alors, ça nous amène philosophiquement à un endroit intéressant, qui est la notion d'autonomie. Ce n'est pas par hasard que l'autonomie, en particulier dans la définition proposée par Emmanuel Kant, ben c'est là se gouverner à partir de ses propres lois, autonomie, et que tout le monde revendique cette définition. Alors que la cécité permet de beaucoup mieux cerner la définition que propose Edgar Morin, qui est c'est gérer ses dépendances en fonction de son propre projet. C'est une définition qui inclut immédiatement la complexité, qui inclut immédiatement la notion de vivre, c'est vivre dans un environnement, c'est vivre en relation, en interrelation avec tout ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas vivre sans puiser de l'information, et évidemment bien plus que de l'information, dans ce qui nous entoure. Autrement dit, être autonome, c'est être aux commandes de ses dépendances. Ce n'est pas être indépendant. Voilà. Et c'est commander, gérer ses propres dépendances en fonction de ce que l'on veut faire dans cet environnement. Autrement dit, en fonction de son projet. Être non-voyant, c'est passer sa vie à organiser ses dépendances. De qui, de quoi, de quel objet, de quelle technique, de quelle gentillesse, de quel, au contraire, manque, il va falloir dépendre pour gérer en permanence son projet. Voilà. Et là encore, je pense qu'il y a une ouverture qui est loin d'être seulement celle de la cécité, mais une philosophie générale. Que les propos d'Edgar Morin nous ont bien permis de pointer. Voilà. Cinquième et dernier thème que je voulais traiter, c'est la notion d'idée. Alors là, je vais me situer un petit peu dans une vision platonicienne. Les idées étant vues comme des formes, des processus, qui existent en soi. Et la proposition que je veux vous faire réfléchir, c'est de dire, vivre sans voir, c'est vivre dans le monde des idées. Voilà. Vivre sans voir, c'est vivre dans le monde des idées. Alors, cette réflexion, je dirais qu'on pourrait partir de la notion de scène perceptive, de théâtre des représentations. Par exemple, Descartes décrit le fonctionnement cérébral comme un petit théâtre où se représente à l'intérieur le monde extérieur. Et donc, il utilise le mot représentation exactement comme représentation théâtrale. Hein. Faut se rappeler que Descartes a travaillé sur l'optique. Faut se rappeler que Descartes est en contact avec les peintres hollandais de son époque, avec toute la grosse réflexion qui a lieu à l'époque sur fond, forme, perspective, comment déformer l'image pour que le spectateur de la peinture, au contraire, ait une vision extrêmement réaliste, donc une espèce de tout un travail sur l'illusion, hein, l'illusion. Donc, Descartes était très, très, très poussé sur ses études, justement phénoménologiques, de la vue et de son fonctionnement. Et donc, il imaginait, et il décrivait dans ses textes, le cerveau comme étant un lieu de représentation. Et donc, on imagine une petite scène de théâtre, et on imagine une scène, comme dans un théâtre, et cette scène perceptive, que Varela a repris lui aussi dans ses travaux, cette scène perceptive est très visuelle. Voilà. Et lorsque par exemple, on dit que quelqu'un est plutôt kinesthésique, ou quelqu'un est plutôt visuel, ou quelqu'un est plutôt auditif, en fait, on est en train de caractériser sa scène perceptive, mais les neurosciences montrent que l'utilisation de l'espace visuel va quand même représenter en moyenne 60 à 70% de la scène perceptive, que quelqu'un qui sera kinesthésique aura moins de visuel, mais restera quand même dans des chiffres autour de 60%, et que quelqu'un qui est très visuel montera peut-être jusqu'à 80%, mais la place visuelle reste toujours prédominante. Et donc évidemment, quand on perd la vue, et là je parle là encore d'expérience, eh bien cette scène visuelle, cette scène perceptive, pardon, se transforme totalement. Et un petit peu comme si de nouveaux acteurs s'avançaient sur la scène et que ces nouveaux acteurs étaient les idées. C'est-à-dire que les idées deviennent visibles, mouvements, auditions. Elles prennent en quelque sorte une espèce de substance perceptive. Beaucoup plus concrète, beaucoup plus présente, parce que la place est faite. Voilà. Ce qui donne vraiment l'impression de vivre, de rencontrer, de traiter, d'avoir un rapport beaucoup plus palpable avec les idées. Je trouve que ça peut également ouvrir des dimensions philosophiques. Beaucoup de philosophes, d'ailleurs, parlent de cette rencontre avec les idées. Hein. Prenez là encore l'œuvre de Morin, et dans la troisième partie de la méthode, la connaissance de la connaissance, lorsqu'il aborde les idées, eh bien le tome était paru sous le titre « Les idées, leurs mœurs, leur habitat ». Donc vraiment comme si c'était des êtres vivants ayant une autonomie à part entière. Voilà. C'est exactement la sensation dont je peux rendre compte. Voilà. Voilà pour ces cinq idées. Alors en conclusion, puisque il est temps d'y arriver, alors, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que la cécité, voilà, la cécité touche d'abord le cœur de la perception, c'est un petit peu ce que je viens de dire, au sens où la vue occupe une très grande place. Mais plus loin que le cœur de la perception, je dirais que la cécité touche le cœur de la vie. On l'a vu à travers le rien, le noir. On l'a vu à travers le fait que toute perception porte de la vue. Hein, quand j'ai dit il y a du voir dans le non-voir. La vue touche la vie dans la peur. Comment je vais vivre en ne pouvant pas me protéger, en ne pouvant pas distinguer. Voilà. La vue, c'est la dépendance, c'est la gestion des dépendances. Finalement, la vue amène à se réfugier dans des idées. Hein, c'est le cinquième point, quelque part. Donc, il y a une espèce de cœur de la vie qui est transformé à travers la cécité. Ça permet de réfléchir à qu'est-ce que le cœur de la vie, justement. Hein, voilà. Ce parallélisme que l'on peut faire entre le monde des choses, le monde externe et le monde interne. Voilà. Des choses comme ça. Voilà. La deuxième idée que je voudrais souligner en conclusion, c'est que le langage visuel, le langage explicatif, hein, si vous reprenez d'ailleurs le discours que j'ai tenu pendant presque une heure, c'est un langage visuel. Expliquer des choses, c'est utiliser sans arrêt des mots de la vue. Par exemple, si je reprends des cartes, avoir des idées claires et distinctes. La philosophie de Descartes, c'est justement travailler à des idées claires et distinctes. Eh ben, claires et distinctes sont bien deux mots parfaitement visuels. Clair, ben, c'est un mot de couleur, d'éclairage, hein, et distinct, ben, c'est un mot de contour, hein, où c'est que les choses sont finies. Le mot définir est un mot qui dit où est la frontière, où est le contour, où est le bord. Voilà. Donc, les mots d'explication, quand on essaye d'expliquer quelque chose, on va avoir recours à un monde visuel. Donc, on voit bien que nous vivons dans une métaphore permanente qui est les vues de l'esprit fonctionnent comme les vues du corps, comme l'organe visuel. Je l'ai développé dans une partie d'un ouvrage qui s'appelle De la clinique comme d'un regard, justement. Voilà. Au contraire, d'ailleurs, j'aimerais vous attirer en conclusion, pour finir, votre attention sur le langage de la compréhension est un langage manuel. Quand je comprends, je prends avec, je mets dans ma main plusieurs notions que j'ai distinguées et que j'arrive à englober et que maintenant, qui me permettent d'un coup de comprendre la chose. Hein. Le phénomène explicatif est un phénomène qui déplie, qui distingue, qui clarifie point par point, et donc on sent le langage visuel, alors que le phénomène compréhensif est un phénomène de saisie. Je saisis avec la main. Et donc on sent bien ce passage de la vue à la main. Hein. Qui caractérise le non-voyant. Le non-voyant est quelqu'un qui pose sa main pour comprendre, pour sentir, pour savoir. Hein. Voilà. Je trouve que c'est très éclairant sur ce que pourrait être une philosophie qui prendrait appui sur la cécité pour réfléchir à qu'est-ce que vivre. Qu'est-ce que comprendre? Qu'est-ce que ressentir? Voilà. Je trouve que vivre sans voir donne des pistes de réflexion philosophique, tout simplement pour vivre. Voilà. Et on va s'arrêter là. Et je vous remercie de votre attention. Et on arrête l'enregistrement.